On va vous partager, je vais vous partager quelque chose, un message prophétique que nous avons reçu il y a 2 semaines. Et j'attends que... Voilà. Vers un projet prophétique. Vous savez que Amos, le prophète Amos dit, Dieu dit par la bouche du prophète Amos plutôt, que Dieu ne fait rien sans avoir averti au préalable ses serviteurs, les prophètes. Et ce que j'aime, par exemple, dans la parole prophétique qui a été apportée ce matin, ce que j'aime dans ce que Dieu fait prophétiquement, c'est qu'il a, il veut toujours amener, nous amener vers quelque chose de meilleur. OK ? La parole de Dieu, apportée par la bouche de quelqu'un qui prophétise, elle doit consoler, elle doit exhorter, encourager, hein, et elle doit édifier. Elle édifie l'Église. Et à mon sens, là, cette parole prophétique, elle vient faire 2 choses. D'abord, elle vient consolider quelque chose qui a été mis en place depuis plusieurs années maintenant. Et elle vient aussi nous encourager à accélérer le mouvement vers ce que nous vivons depuis 4 ans. 5 ans maintenant. Ça passe vite le temps. Hein. Il y a... J'ai oublié un truc. Soyez pas pressés. Ils sont tous pressés à voir la suite, là. Il y a 4 ans ou 5 ans, ça va faire 5 ans, là, cet été, que nous sommes allés aux États-Unis, là, avec Damien. Et je me souviens qu'à l'époque, le Seigneur avait parlé d'une manière claire, nette et précise. Et on a mis en place des choses. Et notamment, on avait mis en place l'organisation au niveau de la louange, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous faisons, la manière dont nous vivons nos cultes. Vraiment, le Seigneur, pendant 1 semaine, là, il a été... Le ciel était ouvert, quoi. C'était incroyable comment le Seigneur parlait. Et puis, à l'époque, il avait dit aussi, c'est le temps pour vous de créer des petits groupes, de faire des petits groupes. Vous savez que ça fait maintenant plusieurs années que les petits groupes existent, avec des petits groupes qui ont tenu dans le temps, d'autres qui... Ça s'est arrêté, peu importe. Mais en tout cas, on a voulu faire en sorte que les petits groupes soient un moyen pour nous de nous réunir en dehors de la semaine. Parce que j'espère que ce que vous vivez ici ne vous satisfait pas. Moi, personnellement, j'ai envie de plus. Hein. Sinon, il y aurait culte tous les jours. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'ai faim. Quand je dis j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, j'ai soif de Dieu. J'ai faim et j'ai soif de vivre et de lui donner tout ce que j'ai. Et on l'a chanté ce matin, il a fait tellement de choses. Par sa grâce, je suis sauvé et par sa grâce, je suis libéré. J'ai aimé le fil conducteur de ce matin, Pauline, parce que ça nous amène à reconnaître la grâce qui nous a été manifestée. Et parce que j'étais pardonné de plein de péchés, j'ai envie de lui donner plein de belles choses de ma vie maintenant. Pas vous ? Mais malheureusement, on a, en plus maintenant, il y a des restrictions. Hein. Donc, ce ne sera pas la libération prochainement, presque. Hein, 30 juin, normalement, il n'y aura plus de jauge. Hein, mais on verra. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de vivre les choses d'une manière un peu plus intime avec vous. Regardez, si je vous regarde là, et si je regarde les personnes qui viennent au culte ces derniers mois, on peut s'apercevoir, en fait, qui peut dire qu'il connaît tout le monde ici. Ah oui, j'aurais pas dû dire à part Nadège, forcément, qui est à l'accueil. Mais moi, je n'y arrive même pas. Et quelqu'un m'a posé la question cette semaine, c'était qui la personne derrière machin ? Je n'y arrive pas. Pourquoi ? Et je me dis, il me manque quelque chose, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de passer du temps avec vous. Et je suis désolé, mais par rapport à ce que nous vivons, on va s'apercevoir que Dieu a parlé il y a 4 ans en prévision de ce qu'il allait faire déjà aujourd'hui. Et puis, souvenez-vous, en 2018, après un temps de jeûne et prière, je me souviens, c'était chez J.R. Ali, j'avais reçu l'image d'une vague qui allait venir sur nous. Alors, je ne sais pas si c'est le nord de la France, mais visiblement, là, j'ai entendu des paroles prophétiques. J'ai vu une vidéo prophétique avec Carlos Payan et un prophète là, d'Allemagne qui vient confirmer cette vague. Il y a plein de gens qui nous... Après coup, je m'aperçois que je n'étais pas le seul à avoir reçu ça. Et puis on se rend compte en fait que quand il y a une vague, et des vagues, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église. Et la première vague, ça a été le jour de la Pentecôte, et 3000 âmes. Vous imaginez ? Est-ce que quelqu'un s'appelle Pierre ici ? Bon, allez, viens, va. Mais, non, j'allais dire non, pas lui. Mais... Vous imaginez un Pierre, un gars qui venait de renier Jésus, un gars à qui on n'aurait pas parié un copec, sur qui on n'aurait pas parié quoi que ce soit. Cet homme prend la parole, 3000 âmes sauvées. Quelle vague ! Et l'Église s'est tout de suite adaptée à ça. On va le voir. J'ai envie de vous partager quelque chose qui est sur le cœur de Dieu. Pas sur mon cœur, à la limite, ce qu'il y a sur mon cœur, peu importe, mais quelque chose qui est sur le cœur de Dieu nous concernant. Je voudrais... C'est pas moi. Il est beaucoup plus vieux que moi, lui. C'est Hervé Guillois, vous le connaissez ? Hervé, qui est un prophète. Il y a 2 semaines, Hervé, il a reçu ça. Pour nous, nous étions dans une visioconférence avec les différentes églises de France et de Navarre. Et puis, il s'est mis à prophétiser. D'ailleurs, il y a des paroles prophétiques qui ont été très encourageantes. Moi, j'étais ultra encouragé de voir comment Dieu parlait aux uns et aux autres. Comme le don prophétique et comme une grâce qui doit couler sur l'Église, mais de plus en plus. Mais je vous le dis, moi, j'ai soif de ça, quoi. Vous imaginez la personne pour qui Dieu a parlé ce matin au niveau de ses ailes et qui va voir ses ailes pousser et qui pourra témoigner dans quelques temps que ses ailes ont repoussé dans le dos et qu'elle peut maintenant avancer avec Dieu, qu'elle ne se casse plus la figure. Mais quelle belle parole d'encouragement, de consolation. Vous savez, quand Dieu parle, c'est pas pour ne rien dire, hein. Il s'appelle pas Bruno, lui, il s'appelle Dieu. Il parle et il veut faire les choses. Et là, j'aimerais que vous écoutiez cette... Ça dure 6 minutes. Donc ça va, c'est pas trop long. J'aimerais que... Qui l'a entendu, là, dans ce qui avait été envoyé ? Bon, presque tous. Mais on va revenir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:10, « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » On va faire un exercice prophétique. Il n'est pas le tout d'écouter les bonnes paroles prophétiques. Moi, quand il a apporté ça, je peux vous dire, comme on dit dans le Nord, j'ai braillé comme une madeleine, quoi. J'ai pleuré parce que ça venait vraiment confirmer des choses, mais des trucs qui étaient dans mes tripes depuis des années. Je veux voir arriver. Et puis là, il me connaît un peu. Je l'ai rencontré une fois ou deux. Et encore, il ne sait même pas que j'étais du Nord. Vous allez voir. Mais Dieu est venu sceller quelque chose qui a été mis en place ici. Et je me dis, mais moi, Seigneur, je ne peux pas rester, je peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas me permettre d'entendre ça et me dire, oh, c'est beau, hein, j'ai bré comme une madeleine. Parce qu'en réalité, ce que vous allez entendre là, ça ne me concerne pas moi, ça ne concerne pas Maryse, mais ça vous concerne vous. Il y a une sœur, dimanche dernier, on a pris le café avec une sœur, elle m'a dit, moi j'étais en cachette, si je veux dire, elle était en mode... Elle dit, mais c'est incroyable comment Dieu m'a parlé à travers les paroles prophétiques des uns et des autres. Vous savez quand l'esprit de prophétie est là ? Ce matin, tu vois, tu as reçu une parole disant qu'il y avait des ailes qui étaient coupées, mais peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Hein. Il y en a peut-être plein qui ont besoin de voir leurs ailes pousser, repoussées par le Seigneur. Et je peux te dire qu'il y en a, moi. Pas que je les connais, mais je sens que le Saint-Esprit est en train de dire là, maintenant, je veux faire repousser des ailes. Donc je vous invite à écouter ça, on l'écoute et on va examiner et on retient ce qui est bon. Vous êtes d'accord ? Même si vous n'êtes pas d'accord, après tout.
Voilà. Là, c'est Bruno. Oh, ça passe vite le temps. Bruno, il faut que je boive un petit peu avant parce que...
C'est de l'eau, ça va.
Pardonnez-moi, j'avais tellement soif. Bruno, alors tu peux mettre le micro. Voilà. Alors Bruno, bonjour. Tu es où ? Bonjour, tu es où ?
Je m'appelle Bruno Bondu, je suis le frère de Jean-Luc.
Jean-Luc. C'est le pasteur de l'église de Bondu.
Le pasteur de l'église de
Bondu.
Ah, Bondu. Ah, c'est tous ceux qu'on a vus de Bondu, alors. Oui. Mais tu vas avoir du travail.
J'en ai déjà beaucoup.
Bruno. Et souvent, quand il y a des paroles comme ça, il faut suivre les gens, hein, c'est important. Voilà, Bruno. Ce que je ressentais pour toi, c'est aller dans le service avec la force que tu avais et avec ce que Dieu t'avait donné, en tout cas que tu avais vu jusqu'à maintenant. Et je sais que les temps dans lesquels tu vas rentrer maintenant, ça va être complètement différent. Tu vas travailler avec l'inspiration du Saint-Esprit de plus en plus. Dieu va te montrer des gens dans l'Église qu'il va falloir, former pour qu'ils puissent vivre les choses que Dieu a prévues pour eux. Attends, je ne vois plus où tu es. Alors, tu es là, voilà. Ça a changé. Et je ressentais comme Dieu veut t'utiliser et il veut faire de toi un instrument pour amener les gens dans leur destinée. Et c'est important pour les temps dans lesquels on va venir. Je crois qu'il y a une onction particulière sur cette église de Bondu, là, en tout cas. Et comme s'il y avait des choses qui auraient pu être vécues, tu sais qu'il y a comme le potentiel, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais ça n'a jamais émergé. Et je sais que Dieu va faire émerger ces choses en t'amenant auprès de toi des gens qu'il va falloir former et placer pour qu'ils puissent devenir des instruments de bénédiction. Parce qu'il y aura beaucoup de gens dans les temps qui viennent qui vont se donner à Christ dans cette région et ils vont avoir besoin d'être aidés. Donc, je voyais ça et je ressentais que beaucoup d'églises, de maisons vont s'ouvrir autour de Bondu, dans les quartiers, les villages, ces endroits autour de Bondu, en tout cas, et que Dieu va utiliser pour pouvoir toucher les gens aux alentours. Et vous allez vivre dans chacune de ces églises qui seront reliées autour de la même église de Bondu, une bénédiction particulière où des gens veulent se convertir comme jamais il y en a eu avant. Et des gens qui ont été formés pour conduire ces églises et les diriger avec ce qu'ils ont reçu, mais que toi, tu formeras tout le temps pour qu'ils deviennent des instruments encore plus grands et plus puissants pour le royaume de Dieu. Donc, je ressentais ça pour cette région de Bondu. Et prépare-toi en tout cas à quelque chose de nouveau. Et c'est comme si tout le savoir du passé va s'écrouler quelque part un petit peu pour vivre la réalité de la parole de Dieu. Ce n'est pas que ça a été inutile pendant un temps, mais comme si là, ça va être quelque chose de nouveau. Ça sera la relation intime avec l'Esprit dans le quotidien pour tous ces endroits et toutes ces églises locales. Petites, là, vont être avec une identité bien déterminée qui ne sera pas la même partout et qui vont vivre des choses super. Et je sais que tu es l'homme que Dieu a voulu pour conduire tout ça. Donc, je voulais t'encourager, toi et ton épouse, je pense que tu es mariée, je ne sais pas, elle est là, elle se cache. Voilà, il ne faut pas te cacher, tu es importante. Elle est repartie, voilà. Voilà, mais tu peux te mettre sur les genoux de ton mari comme ça. Non, je me dis, il va le faire. Oui, c'est super. Non, voilà, juste pour dire, il ne faut plus non plus pour toi que tu te mettes en dehors. Tu es importante. Je ne crois pas que Dieu dit la femme reste au fourneau. Non, la femme est utile aussi pour le royaume de Dieu. Dans beaucoup d'endroits, Paul en parle de toutes ces femmes qui ont été des instruments de Dieu pour beaucoup de personnes, même pour lui. Et je crois que la femme a une plus grande sensibilité que l'homme. Et je pense à cause de ce qu'elle est, mais en plus de cette finesse qu'elle a. Et je sais que Dieu veut t'encourager pour que tu prennes ta place à côté de ton mari. Parce que tous ces couples qui vont démarrer ces églises de maison auront besoin des deux. Et les femmes auront besoin de t'entendre aussi pour les encourager et leur dire tout ce que c'est des fois dur d'être femme de responsable, et en même temps parce que tu as vécu des expériences, mais tu as des choses à dire, des choses à transmettre. Et je pense que Dieu veut t'utiliser pour tout ça, même pour les familles, pour les enfants. Et je sais que tu as beaucoup de choses à donner. Donc, je voulais t'encourager aussi avec ton mari, parce que les temps dans lesquels vous allez rentrer, ça va être assez fort et puissant. Ça va bouleverser votre façon de vivre. Mais je crois que c'est ce que vous avez prié c'est ce que vous avez cherché auprès de Dieu, c'est ce que vous désirez. Et je crois que ces choses sont en train de se mettre en place maintenant. Et même le Covid a été le moyen pour mettre tout ça en place, pour que beaucoup de choses tombent, pour que les gens se lèvent enfin dans l'Église et deviennent des instruments de Dieu, et qu'ils deviennent responsables devant Dieu. Et je sais que Dieu va, tout ce qui a été semé pendant plein d'années va porter du fruit maintenant. Donc voilà, je voulais dire ça à tous les deux. Dieu veut vous encourager et vous êtes important pour le royaume. Donc voilà, pour vous deux.
Ouais. Alors, le but, ce n'est pas de parler de Bruno et de Maryse. Hein. Le but maintenant, c'est de voir ce que vous, vous en tirez de cette prophétie. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers vous pour accomplir ce qu'il annonce ? Cette prophétie relève plusieurs choses. La première, le potentiel de Betsalel. Votre potentiel est l'onction que vous avez reçue de la part de Dieu. Je sais que je vais faire rire mes fils quand je dis ça, mais si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Je sais que Timothée, lorsqu'il va écouter ce message, il se marre à chaque fois quand je dis ça, parce que c'est un truc qu'on entend souvent. Mais quand Dieu envoie quelqu'un dans une communauté, c'est parce qu'il a un but, parce qu'il veut vous faire entrer pleinement dans le projet de cette communauté. Tu ne peux pas dire « je veux y être » et ne pas être. Comprenez ça ? Et je crois que Dieu, de la même manière qu'il a rempli Betsalel de l'esprit, de son esprit pour construire le tabernacle, il a accordé une onction, il a accordé des forces, des capacités à cette Église pour accomplir ce que nous allons devoir faire. Et je veux simplement vous rappeler que tout le projet de Dieu ne repose pas sur un homme, sur un ministère ou sur un couple tel que là, bien sûr. Mais regardez, il dit à un moment donné, afin que tous soient responsables devant Dieu. Ça parle de maturité, ça parle de solidité, ça parle de force, de capacité d'entrer pleinement dans ce que Dieu vous a confié. La deuxième chose, c'est qu'elle confirme ce que nous prions depuis plusieurs mois. Pour ceux qui vont régulièrement au 30 chronos, régulièrement c'est plus de ton esprit Seigneur, plus de toi Seigneur. Nous voulons vivre par toi, pour toi, plus de toi. Que ta parole soit vécue d'une manière concrète. Je l'entends tous les jours lorsque je me connecte. Il n'y a pas un jour où un frère ou une sœur qui prie et qui ne demande pas à Dieu que le Saint-Esprit nous amène à vivre les réalités de sa parole. Les réalités. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a une vraie superposition entre notre vie et ce que Dieu fait et ce que Dieu dit dans sa parole. Cette parole prophétique confirme la vague reçue en 2018. Il a dit « Beaucoup de personnes vont se convertir dans cette région dans les temps qui viennent. » Ça confirme. D'accord ? Elle confirme que le Seigneur a choisi des petits groupes comme moyen de bénédiction. Regardez, il a dit, c'est pas moi qui le dis, moi je l'ai dit avant, mais là il le confirme. Il vient confirmer, c'est à travers les églises de maison que nous appelons les petits groupes, parce que je trouve que c'est plus fun. On appelle des petits groupes des lieux avec, j'ai beaucoup aimé ça, une personnalité différente. Ils ont chacun leur identité, ils ont leur perception des choses, mais ils seront source, on le verra après, d'une vraie bénédiction pour cette vague. Et regardez comment ça se passe. Non, je ne leur parle pas maintenant, j'en parle après. Je mets la charrue avant les bœufs, des fois. Elle confirme quelque chose. Forme des responsables. Mais je m'arrête, je vais bien au-delà. Vous savez, des gens qui portent des responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le projet de Dieu, dans le projet dans lequel le Saint-Esprit veut nous amener, il veut que dans les maisons, les hommes soient responsables comme des responsables. Ils veulent que les couples, que les femmes soient responsables comme des responsables. Déjà, je vous rappelle à tout hasard que vous êtes appelés, que nous sommes appelés déjà à être responsables dans notre propre maison. Non ? Mais bien au-delà, il dit, dans les maisons, dans la maturité qui va arriver dans des familles, il y aura parmi ces personnes des personnes qui seront capables d'accueillir dans leur propre maison. C'est-à-dire qu'il y a un appel dans le cœur du Père pour faire de vous, de moi, de nos maisons, des lieux d'accueil. C'est bien ce que vous avez entendu ? Dites-le si je me trompe. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous avez bien entendu ça, hein ? Ouais, ça va. Et enfin, et là, il y a quelque chose que je veux vous interpeller qui me sont passés à côté quand je l'ai entendu. Parce que j'ai entendu ce que Dieu disait à Maryse. Parce que Maryse, c'est la reine du cache-cache. Maryse, elle aime bien jouer à cache-cache avec ses petits-enfants, par exemple. Mais il est en train d'interpeller les femmes de cette église à ne pas jouer à cache-cache et à prendre pleinement leur place. Je sais que ça va heurter peut-être, mais visiblement Dieu dit, et il interpelle la femme de ma vie, sois la première qui va commencer à prendre peut-être des choses et à entraîner les autres vers ça. Autrement dit, dans ce que nous allons mettre en place dans les temps qui viennent, nous devons comprendre que ce ne sont pas uniquement les hommes, vous savez, les vrais et les tatoués, comme disait Fernandel, qui tiennent la route, mais que nous avons besoin de travailler en couple, en famille, en prenant compte de ce que les femmes sont avec nous, messieurs. Maintenant, on va voir un peu la définition de l'Église telle qu'elle a été au départ. Donc, je vous rappelle la Pentecôte. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé, hein, les langues de feu descendent là, sur les disciples, et puis ils se mettent à prophétiser, parler en langue. Tous les gens qui passent par là ils disent ils ont bu du vin d'Alsace. ils sont ivres de vin doux. Et puis, que se passe-t-il ? Pierre prend la parole, il fait une prédication qui est, à mon sens, l'une des plus belles que j'ai pu lire. Vraiment une belle prédication. Une prédication qui pose les bases mêmes de la manière dont nous devons prêcher l'Évangile aujourd'hui. Comme disait l'apôtre Paul, je ne prêcherai pas autre chose que le Christ et Jésus-Christ crucifié. De prêcher la croix. C'est la croix qui sauve, hein. Ce n'est pas une vision d'église, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des systèmes de pensée qui sauvent. C'est la croix. Quand j'amène les gens vers la croix, c'est là où ils sont sauvés. OK ? Et que se passe-t-il ? Alors forcément, les premiers jours, ils étaient au temple. Et puis 3000. Ben, comment je fais avec les 3000 maintenant ? Première vague. Et là, les âmes arrivent et se disent, il faut bien qu'on s'organise quand même. Et là, que font-ils ? Ils vont donc visiblement aller dans les maisons. C'est-à-dire que la vie de l'Église s'exprimait à la fois au temple, elle s'exprime ici, mais elle s'exprime aussi dans les maisons. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui vivait dans le temple, il le vivait aussi dans les maisons. Et il le vivait même au-delà des maisons, parce que même dans la porte du temple, il y a un gars qui va être guéri. C'est-à-dire que la vie de l'Église s'exprimait pleinement en dehors du temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, tous les jours. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je suis désolé, mais quand il y a une vague qui arrive, il y en a toujours une deuxième qui arrive derrière. Moi, je n'ai jamais vu à la mer les vagues s'arrêter comme ça. Ah ben, il n'y en a qu'une. Non, Il y a des vagues plus ou moins hautes, plus ou moins puissantes. Mais en réalité, Dieu, quand il envoie une vague, il envoie. C'est-à-dire que ce que vous pouvez voir aujourd'hui, comprendre de ce que nous vivons ici, Dieu va envoyer. Et quelle compréhension avons-nous de ce que Dieu est en train de faire? Et que mettons-nous en place aujourd'hui? Et quelle est notre vision par rapport à ce que Dieu veut? Ayant appelé les apôtres, là, c'est la première persécution. Et on veut le voir, qu'il y a eu une vague, mais après, que s'est-il passé? Tiens, vous croyez que le diable a laissé faire les choses? Première persécution, on commence à persécuter les apôtres. Après, même, ils vont devoir un peu se cacher. Où vont-ils se cacher? Où vont-ils prier? Où vont-ils rompre le pain? Où vont-ils être enseignés? Dans les maisons. Et en ce sens, ce Covid, il a bousculé les choses. Pourquoi? Parce que nous avons pris conscience que notre vie, et encore, on n'est pas en Belgique, nous, hein. Je pense à nos amis de Moucron, à Pierre, avec qui j'ai pu discuter. Nous avons eu la possibilité de nous réunir, certes avec une jauge, mais nous pouvons être là le dimanche. Mais malgré ça, nous avons pu prendre conscience, mes frères et mes sœurs, que nous devions aller au-delà de ce que nous vivons le dimanche. Que va-t-il te passer le jour où on va être persécuté? Si on base tout notre vie d'église sur le culte, que va-t-il se passer? On sera dispersé, non? Que va-t-il se passer le jour où le berger sera frappé? Le jour où Bruno n'est plus là? Ou les anciens? Ou les responsables? Est-ce que l'Église va continuer de vivre? Non. Parce que l'Église doit s'exprimer à travers des couples pastoraux dans les maisons. C'est dans les maisons que nous devons bâtir l'Église. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, ils les relâchèrent, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils annonçaient l'évangile dans les maisons, dans le temple et dans les maisons. Ils enseignaient. Il ne cessait d'enseigner. Tiens, ça doit peut-être nous interpeller à ceux qui ont un groupe de maison, peut-être faire un peu plus d'enseignement. Et un troisième texte. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et puis Pierre est libéré d'une manière miraculeuse. Après avoir réfléchi, il se dirigea où? Vers la maison de qui? Tiens, une femme. Voilà que Dieu se met à utiliser des femmes maintenant. Une femme était responsable d'une église de maison. Moi, ça m'interpelle quand même. Alors, elle avait la mère de Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et regardez dans cette maison. Cette femme, elle était sans doute veuve ou je ne sais pas. Mais visiblement, elle accueillait dans sa maison des personnes qui avaient besoin d'être enseignées, qui priaient. Là, ils avaient vraiment une identité d'intercesseur. Voilà, ils priaient là, dans ce groupe de maisons-là. Le nombre d'exemples où Saint-Esprit agissait. Là, j'ai acheté un bouquin, mais je ne l'ai pas encore reçu. Sur les petits groupes. Je vais le lire. Puis peut-être que je le passerai aux uns et aux autres. Le nombre d'exemples où le Saint-Esprit agissait dans les maisons ne manque pas, mes frères et mes sœurs. Je peux vous dire, relisez le livre des Actes. Je sais que ça fera plaisir à l'ami Benoît qui veut à tout prix qu'on étudie le livre des Actes. Peut-être qu'après l'Apocalypse, on va sans doute faire celui-là dans notre bibliogroupe. Mais visiblement, Dieu, le Saint-Esprit, a un projet nous concernant, et dans ce projet s'intègrent pleinement les petits groupes. Regardez ça. Il y a un frère qui m'a envoyé ça dernièrement, et ça m'a beaucoup interpellé. Alors pour les chimistes, pour ceux qui font un peu de chimie, c'est une molécule assez complexe. Ça, pour moi, ça, c'est l'image de l'Église apostolique, telle que Dieu la voulait au départ. Regardez, je voudrais juste que vous puissiez regarder un moment les boules noires qui sont des groupes un peu plus importants. Les églises des villes étaient reliées entre elles. Hein ? Il y a une église à Thyatire, une église à Smyrne, une église à Éphèse, une église à Laodicée. Voilà, dans une même région, plein d'églises. Mais à votre avis, comment étaient-ils au départ ? Donc, elles étaient réunies entre elles. On le voit spécialement lorsque Paul commence à faire de l'église d'Éphèse un lieu d'enseignement. Et on s'aperçoit que le lieu d'enseignement qui est Éphèse est une véritable source de bénédiction pour les autres villes. Et cette église, en réalité, était comme un pôle formateur pour les autres églises. Et regardez comment, derrière, il pouvait y avoir une, deux, trois peut-être maisons dans chaque ville dans lesquelles les gens priaient, dans lesquelles les gens vivaient leur foi d'une manière concrète. Et ce n'est pas ici qu'on va apprendre à se connaître, d'accord ? Mais quand on prend du temps ensemble, quand on prend un café ensemble, quand on vit les choses ensemble, quand on partage notre foi ensemble, c'est ça l'Église. C'est lorsque nous recherchons la présence des autres. Alors vous allez me dire, c'est compliqué en ce moment. Ouais, mais on ne s'est pas laissé aller à l'immobilisme. On a continué à vivre les petits groupes. Même si ça vous dérange, peut-être moi, au début, ça me perturbait de vivre les choses en visio. Mais maintenant, ça ne me pose aucun souci. Je vis des bénédictions. Moi, je fais partie. J'ai un petit groupe, notre bibliogroupe. Je considère comme un petit groupe parce qu'on s'est mis sous l'autorité de Geoffrey. Mais moi, je fais partie d'un petit groupe. Et dans ce petit groupe-là, il y a un binôme. Vous verriez les choses que je vis, moi, avec les binômes. Waouh ! Les relations. On prie les uns pour les autres. On cherche vraiment à prier. On s'appelle une fois par semaine. Et quels sont tes besoins ? Quels sont... Pas plus tard qu'hier soir. J'ai eu un entretien avec quelqu'un et cette personne, vraiment en grande détresse émotionnelle, pour qui j'ai prié. Et je l'ai conseillé et je l'ai encouragé. Et cette même personne, une autre fois, j'ai une autre personne, pas la même, où j'étais vraiment dans une phase de doute dans ma vie. Et cette personne ne s'est même pas rendue compte, mais toutes les paroles qu'elle pouvait me donner dans l'entretien venaient confirmer des choses qui étaient sur mon cœur. Waouh, ça c'est l'Église. Ça, c'est Betsalel. Ça, c'est Bondu avec toutes ces églises qui vont venir. Non ? Les maisons étaient un lieu de prière, un lieu de refuge. C'est là où vont se réfugier. Ils ne vont pas au temple pour se réfugier. Ils vont se réfugier dans la maison de Marie. Un lieu de communion, un lieu d'enseignement, un lieu d'évangélisation. La vie de l'Église s'étendait bien au-delà du temple. Elle s'exprimait aussi par le rassemblement des croyants dans des maisons où le Saint-Esprit agissait avec puissance. Mes frères et mes sœurs qui avaient un groupe de maisons, qui avaient un petit groupe chez vous, Dieu veut agir avec puissance dans votre maison. Et si tu recherches à vivre les réalités de la parole telles que ça nous a été promis par le Seigneur, va dans un petit groupe. Recherche, priez les uns pour les autres. Vivez la communion les uns avec les autres. Recherchez la présence des autres. Cette prophétie confirme le modèle établi par l'Église primitive pour surfer sur la vague de l'Esprit et pour répondre aux premières persécutions. Elle correspond au modèle que Dieu veut actuellement pour les églises. Alors je ne dis pas que toutes les églises de France et de Navarre doivent être comme ça. En tout cas, si, entre ce que nous avons reçu aux États-Unis, tu te souviens Damien, tout ce comme la manière dont Dieu parlait, dont Dieu a voulu établir les choses que nous avons mis en place avec beaucoup de travail, de persévérance, il nous a fallu des heures entières pour écrire les choses, pour les mettre en place. Si on a mis ça en place et que Dieu vient confirmer, je suis désolé, mais je n'ai pas l'impression qu'on se trompe beaucoup. Hein. Non ? un modèle que nous avons mis en place depuis 2016-2017, mais qui doit s'étendre, se préciser quant à son contenu. Je pense qu'on doit peut-être réécouter et relire le livre d'Exactes et se dire, voilà, mon petit groupe, il doit peut-être évoluer maintenant aujourd'hui. Un modèle que le Seigneur a prévu pour sauver beaucoup d'âmes. Il est dit, à travers ces églises de maison, beaucoup d'âmes seront sauvées. Le modèle tel que nous le vivons aujourd'hui ne peut pas fonctionner sur une vague. Mettez un homme seul face à une grande vague, il est renversé. Mettez plusieurs se tenant ensemble, ils tiendront le coup. Un modèle qui doit interpeller plusieurs d'entre nous à faire de leur maison un lieu d'accueil. Et j'interpelle, si vraiment vous sentez que le Saint-Esprit, cette semaine, vous interpelle et que vous sentez au fond de votre cœur que vous devez ouvrir votre maison, appelez. Envoyez un petit message. Je ne dis pas que ça se fera automatiquement chez vous, mais appelez. Priez, jeûnez, demandez à Dieu de vous parler. Parce que le modèle est celui-là. J'ai fini.